Session philosophique sur la personne par le Père Philippe le 13 juillet 1989 à Saint-Jeudard.
Il y a quelques petites questions. Peut-on découvrir la personne à partir du « tu es » expérience de l'autre ? Je suis tué. C'est sûr. Mais évidemment, le tué renvoie au je suis. Alors, est-ce qu'on découvre d'abord je suis ou d'abord tué ? Je crois qu'on découvre d'abord le je suis. C'est pour ça que je pars du je suis. Vous voyez, l'amour de l'autre est avant l'amour de soi, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'aime d'abord pour aimer l'autre? Vous voyez, c'est très difficile là, parce qu'au fond, c'est réciproque. Mais le « je suis » a une priorité, au point de vue de la connaissance. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous découvrez ceci est. Et en découvrant ceci, vous pensez. Et vous pouvez vous poser la question, j'affirme ceci est. En affirmant je suis, en affirmant ceci est, je suis. Vous voyez ? Donc, vous découvrez d'abord le je suis. Au plan métaphysique. Sûrement. Et le tuer, vous l'affirmez par le fait que vous êtes en communion avec l'autre dans l'affectivité. C'est à l'intérieur de l'intersubjectivité, l'objectivité. Ça vous reviendrait devant. De temps en temps, il faut faire rire le langage moderne pour que vous compreniez ce langage moderne et d'une simplicité étonnante. Dès qu'on le décrypte un peu, il faut le décrypter. Comment sait-on qu'on est dans la vérité ? Parce qu'on est dans la vérité. Il y a des évidences. Avez-vous l'évidence quand vous affirmez « cette table existe ». Ce que je dis là est vrai. Si vous commencez à douter de votre sensation, vous, évidemment, si vous êtes cartésien, vous direz, je doute. Est-ce que vous doutez ? Quand vous voyez le feu vert et le feu rouge, et vous passez le feu rouge en croyant que c'est le feu vert, le gendarme vous siffle, vous arrêtez, vous dites, ah, je croyais que je m'étais trompé. Je m'étais mis en doute. Ma vision, parce que je suis cartésien, monsieur le gendarme, il vous donnera quand même, vous voyez, c'est ça qui est idiot, c'est qu'on fait passer avant la critique, avant le réalisme simple de la vie quotidienne. La vie pratique fait partie de la philosophie. Il paraît que Brunswick, c'est pas moi qui assistais au cours de Brunswick, mais c'était le père de haut, mon oncle, qui allait de temps en temps. Et Brunswick, commentait ton cours en Sorbonne. Messieurs et mesdames, mettez à la porte le bon sens, nous allons philosopher. Ah, ça c'est énorme. S'il faut mettre à la porte le bon sens pour philosopher, j'aime mieux pas faire de philosophie pour perdre le bon sens. La philosophie tient compte de toutes les expériences de l'homme. Et parmi ces expériences de l'homme, il y a l'expérience du marché. Quand vous vous allez acheter des carottes, vous voyez des carottes, et vous ne vous mettez pas en question, est-ce que ces carottes existent? Si vous commencez à dire ça, il y a quelque chose qui ne marche plus très bien. C'est vrai, on a raison de dire quelque chose qui ne marche plus très bien. Alors, s'il faut être philosophe pour ne plus très bien marcher, c'est dangereux. J'ai connu à Fribourg, parmi mes étudiants, un étudiant un beau jour, c'était un Valaisan, un matheux, que j'aimais beaucoup, que je vois encore de temps en temps. Un garçon épatant, intelligent. Au bout de 6 mois qu'il était à l'université, il est venu me voir, il dit, puis je viens, parce que je sais plus ce que je fais, je perds la tête, ça va plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, en lisant Heidegger, j'ai vu que pour être philosophe, il fallait être angoissé. Alors, j'ai essayé d'entrer dans l'angoisse. Et maintenant, je crois que j'y suis. Mais c'est vrai, c'est authentique, ça, c'est pas de la blague. Alors, je dis, mon pauvre vieux, heureusement qu'on se connaît avant que vous soyez en angoisse. Alors, il y a moyen de vous rattraper. C'est vrai, quand on a connu quelqu'un avant qu'il entre dans l'angoisse, on peut toujours le rattraper. Parce que quand on est dans l'angoisse, on ne peut plus faire une relation d'amitié. C'est le problème de l'angoisse. Et quand on a connu quelqu'un avant, on peut le rattraper. Il suffit d'écouter, dire, écoutez, l'angoisse, qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse, c'est terrible, je suis d'accord. Hein, c'est imaginaire. Ça prend nos passions, ça prend des colorations multiples et diverses, parce qu'il y a divers types d'angoisse. Je crois que l'angoisse, c'est l'oubli de l'expérience. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, parce que tous les philosophes d'aujourd'hui parlent de l'angoisse sans être angoissés. Et donc, ils augmentent l'angoisse. Heidegger n'a jamais été angoissé. Il n'aurait pas écrit. Quelqu'un qui est angoissé n'écrit plus. Sartre a parlé de l'angoisse et a mis ses premiers disciples dans l'angoisse. Ils se sont suicidés. Mais Sartre ne s'est pas suicidé. Oui. Alors ça, c'est terrible. Engager des disciples dans des voies qui ne conduisent à rien. L'angoisse ne conduit à rien. C'est un gouffre imaginatif. Vous voyez, tant que vous êtes un homme ou une femme capable de faire la cuisine, on devrait faire ça pour les philosophes, hein. Capable de faire la cuisine, il n'y a pas de danger. Parce qu'ils ont l'expérience des petits pois. Ils ont l'expérience d'une soupe brûlée. Ils ont l'expérience, oui, de tout ce qui est raté, quoi. Et ils essaient de faire la cuisine, quoi. Connaissance pratique. Bon, la cuisine ou autre chose. Jardiner. Ou autre chose, de la poterie. De l'art. Philosophe doit avoir un lieu d'expérience humaine. Pour un prêtre, c'est la vie apostolique. On est un vrai philosophe si on a une expérience humaine. Bon, le prêtre qui fait de la philosophie, le moine qui fait de la philosophie, n'a pas de foyer. Parce qu'un homme marié a son foyer. Son épouse est là pour dire « Attention, hein, attention ». Je me souviens d'avoir revu la fille de Merleau-Ponty. Ça m'a intéressé. C'était dans des prémices dans le Midi de la France. On m'a dit, la fille de Merleau-Ponty est là. Ça m'a intéressé. Je lisais beaucoup Merleau-Ponty à cette époque-là pour le comprendre, le saisir. On m'a dit, dites-lui de me dire me voir. Alors elle est venue. Elle avait 16 ans. Alors elle parlait librement. Elle m'a dit tout de suite, ah, c'est pas drôle d'avoir un père philosophe. Je dis, tiens, pourquoi? Oui, parce qu'il ne nous parle pas beaucoup. Ah, je dis, c'est dommage. Parce que Merleau-Ponty n'a découvert le réalisme qu'à la fin de sa vie. Il est mort trop jeune pour nous donner le second Merleau-Ponty, qui était la découverte de l'être sauvage. L'être sauvage, ça aurait été la découverte de sa fille. Alors il avait découvert que dans sa fille, il y avait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et donc il y avait un abîme du réel par rapport à son intentionnalité, par rapport à son vécu. Alors, j'ai l'évidence de la vérité toute simple, ceci est. Je crois que vous ne mettez pas en doute, quand vous touchez votre table pour faire cette expérience, quand vous touchez votre table, ben vous dites, mais oui, c'est évident. Quand vous touchez votre main, si elle est encore sensible, vous touchez votre main, dites, j'existe, mon corps existe. Ben ça, je crois que j'en ai l'évidence. Si vous n'avez pas l'évidence, venez me voir. Parce que c'est pathologique. Là, je vous conduirai un médecin qui dira, oui, c'est vrai, moi, c'est pathologique. Chaque jour que vous vous réveillez, vous touchez quand même la terre, vous touchez votre lit, vous vous réveillez. Vous avez quand même l'évidence de passer du sommeil à être éveillé. C'est une petite expérience que nous faisons tous les matins. Normalement, si on a dormi. C'est évident, c'est la vérité, je suis éveillé maintenant. Quelqu'un qui me dit je ne suis pas éveillé, moi je sais que je suis éveillé. Je sais bien que je suis éveillé. Je suis éveillé pourquoi? Parce que je touche quelque chose qui est extérieur à moi. Mais si je fermais les yeux, je dis oui, je suis éveillé. Ah, je ferme les yeux parce que j'aime pas vous voir. Alors, pour dire, il continue de rêver. Le toucher. Le toucher, c'est le sens le plus réaliste. Vous voyez, la fameuse planète des Martiens, les soucoupes volantes. J'ai suivi toute la chose, ça m'intéressait. J'avais un ami ingénieur qui y croyait dur comme fer. Et il dit toute la littérature, c'est les soucoupes volantes. Et c'est ça existe. J'ai suivi pas mal, je lui ai demandé de me montrer les textes. J'ai toujours remarqué qu'il y avait une seule expérience, c'était le toucher. Personne n'avait donné la main à ces êtres curieux. On les voyait, ça faisait du bruit, c'était étincelant, mais on ne les touchait pas. Le toucher, sens du réel. Et le jugement d'existence, pour moi, il y a au toucher. Parce que, et les psychologues là, sont tout à fait d'accord. Les hallucinations les plus terribles, c'est celles du toucher. Ça prouve que le malade est très très malade. Puisque la maladie de perdre le sens du réel, c'est par le point de vue des sensations. Vous pouvez avoir facilement des hallucinations de l'ouïe. C'est celle qu'on a en premier lieu. C'est très curieux. L'ouïe est un des sens les moins réalistes pour ça. Et c'est pour ça que les hallucinations premières sont celles de l'ouïe. On croit entendre des voix. Vous avez tous entendu des voix. Hein? Quand vous traversez une forêt la nuit, quand c'est la guerre, je me souviens avoir traversé la forêt de Compiègne, la nuit, parce que je devais me rendre à tel lieu, j'avais qu'une pauvre bicyclette. J'avais ma carte d'identité sur moi. Et là, c'était juste la fin de la guerre. Et on savait qu'il y avait des quantités de soldats qui restaient dans la forêt. prendre des cartes d'identité. Pas avoir des cartes d'identité. Ah, je t'affirme, hein, pas drôle. On entend des tas de bruit. Ouh là 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 là. L'imagination étant, quand on est de garde la nuit, en pleine campagne, à être éveillé sur tous les bruits qui existent, alors on interprète tout de suite, vous voyez, l'hallucination, c'est l'imaginaire qui l'emporte sur les sensations. Hallucination de l'ouïe, puis de la vision. C'est plus rare. Puis de l'odorat. Oh, je sens des odeurs. Oh, extraordinaire. L'odeur de violette. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais c'est l'odeur de violette. Attention, attention. Le goût et le toucher, ça devient très grave. Parce que dans les sens, c'est plus réaliste. C'est intéressant de voir ça chez les psychologues, parce que là, ils confirment ce que la philosophie a toujours dit. Le sens réaliste, c'est le toucher, lié à l'intelligence, et qui permet de saisir ce qui est. S'il n'y a pas de jugement d'existence, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes dans la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas l'harmonie des systèmes. En logique, il n'y a pas de vérité au sens absolu. Il n'y a qu'une harmonie. En mathématiques, il y a une harmonie. Tandis qu'en philosophie, vous touchez la réalité. Donc on a l'évidence de la vérité dans la mesure où on a l'évidence de l'expérience. Où l'homme est-il le plus homme ? Dans ses passions ou dans un autre niveau ? Il est homme dans ses passions, mais aussi il est animal dans ses passions. Un homme terriblement passionné peut arriver à tuer. Et quand il a tué, il dit, espèce d'imbécile que je suis. J'ai tué. Vous voyez, il y a la réaction après, c'est très curieux. Quand la passion vous met devant le résultat, le réel. Et on désespère. Vous voyez, Judas a désespéré quand il a vu que le Christ était condamné à mort. Il ne voulait pas ça. Il voulait simplement humilier Jésus. Alors, la passion est un niveau. On verra. Comment nous intégrons les passions dans la personne humaine ? Et on les intègre par la partie supérieure de l'homme, c'est-à-dire l'esprit. Donc au-delà des passions, il y a l'esprit. Peut-on dire que la nature humaine est libre ? Sa liberté consiste-t-elle à faire le bien ? Est-on encore libre en faisant le mal ? Oui, hélas. Tant il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas de faute. Mais la liberté diminue en faisant le mal. On est ordinairement conduit au mal parce qu'on devient esclave des passions. Et c'est pour ça que les passions diminuent la responsabilité et la gravité de la faute. Parce qu'on est esclave des passions. La liberté n'existe qu'au niveau spirituel. Il n'y a pas de liberté au niveau passionnel. C'est pour ça que psychologiquement, on a beaucoup de peine à découvrir la liberté. Parce qu'au fond, les lois psychologiques essaient de préciser des liens de nécessité où il n'y a pas de liberté. Je crois que la liberté ne peut se découvrir qu'à partir de l'amour. C'est l'amour qui nous rend libres. On le verra ça, si on a le temps. Si la personne est d'abord ce mystère incommunicable de singularité, de solitude, Comment peut-on humainement rentrer en relation avec elle? Est-ce possible? Oui. Tenez en vérité. Quand je dis que c'est le premier moment fondamental au point de vue métaphysique, je n'exclus pas les autres, ce que nous allons voir. Y a-t-il un devenir au niveau du « je suis » Oui. Il y a la croissance de la personne. Quand je dis « je suis aujourd'hui », ce n'est pas le même que j'ai dit l'année dernière. Parce que depuis l'année dernière, normalement, je suis plus homme. Normalement. Si je suis sur un haut plateau, je ne suis pas beaucoup plus homme. Et si je suis dans une recherche de la vérité, je suis plus homme. On découvre tout le temps un peu plus de vérité. Quel est le lieu, le lien entre l'être et le devenir? C'est l'homme. Pour la personne. L'homme dit je suis, l'homme sait qu'il progresse. Je progresse tout le temps. Et tant je progresse, je reste vrai. Le jour où je n'accepte plus le progrès, je ne suis plus vrai. Vous voyez, ça, c'est le traditionnalisme. Le traditionnalisme se tue lui-même parce qu'il n'accepte pas que la tradition est au service de la vérité. Pas la tradition qui est un absolu, c'est la vérité. Et la tradition implique, pour être vrai, un renouvellement constant. Donc celui qui dit la tradition de l'Église s'arrête avec Pie XII se contredit lui-même. Parce que je ne peux pas arrêter la tradition. Il faut que j'en sorte. Donc je suis plus dedans. Je fais partie de la tradition. C'est bien évident. Et le jour où je dis je ne peux plus progresser dans ma vie intellectuelle ou dans ma vie affective, ça prouve que j'arrête ma recherche intellectuelle et j'arrête ma capacité d'aimer. Donc je ne suis plus vrai. Ça qui est extraordinaire, ça c'est la vie de l'esprit, la vie de mon esprit. Mon esprit ne cesse de progresser. Alors, faisons attention, on ne sépare pas l'être du devenir, on le distingue. Le devenir existe, il est. C'est la manière d'être du devenir. Il devient. Mais il est. Alors je ne sépare pas. C'est l'erreur d'Heidegger de séparer l'être du devenir. Alors que l'être est présent dans le devenir. Mais mon intelligence est capable de saisir dans ce qui devient ce qui est. Alors, dernière question, j'y reviens. Et on va taper à l'œuvre, pied d'œuvre tout de suite. Pourquoi dites-vous que l'âme est substance? C'est très bien, j'ai été très vite ce matin, je le sais. J'en ai eu conscience, parce qu'en vous regardant, j'ai vu des physionomies qui disent, tiens, alors j'ai compris. Et c'est très vrai, c'est très vrai. Vous voyez, dans le « je suis », je disais, toute l'analyse de la philosophie première, c'est-à-dire la métaphysique. Vous savez qu'il y a deux noms, hein. Je ne l'ai pas dit. Philosophie première, c'est le nom que donne Aristote à ce qu'on a appelé métaphysique. Aristote n'a jamais appelé philosophie première métaphysique. La métaphysique, C'était la dénomination des bibliothécaires. Les livres d'Aristote ont été perdus pendant plusieurs siècles. On les a retrouvés. On a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de livres physiques. Puis on a vu un autre livre qui semblait plus physique. Alors on a dit après la physique. Métaphysique. Après. Ou au-delà de la physique. Méta. Le our allemand. Méta, ce qui est fondamental. Méta. Ce qui vient après. Aristote n'a jamais dit ça. Aristote a dit philosophie première. Et je crois qu'aujourd'hui, étant donné ce que Heidegger a dit sur la métaphysique, parce que Heidegger a dit qu'il y avait l'enterrement de première classe de la métaphysique. Et Heidegger a célébré l'enterrement de première classe de la métaphysique. Il a dit la métaphysique est finie. Maintenant, c'est l'ontologie fondamentale. Alors ça, c'est la manière dont Heidegger considère qu'il y a quelque chose qui dure. Mais l'ontologie fondamentale, c'est la philosophie première. Et Aristote appelle philosophie première ce que nous appelons métaphysique, ce que saint Thomas a appelé métaphysique. Alors, j'aime mieux dire philosophie première. Vous voyez, c'est plus juste, c'est plus vrai. Ça exprime bien la philosophie ultime et fondamentale. Vous voyez, celle qui va le plus loin. Parce que quand je dis ceci est, c'est une méta-expérience. Ce jugement d'existence existe toujours à l'intérieur d'une expérience. Mais ce n'est pas l'expérience. C'est la condition sine qua non pour que l'expérience existe. Alors je dis ceci est. Mais vous n'avez jamais expérimenté l'être. Vous seriez électrocuté. Si vous touchez l'être, c'est une méta-expérience. C'est un au-delà de l'expérience. Oui. Vous expérimentez la table. Vous n'allez pas dire, ah, je touche l'être. Mais non, je touche une table. Que cette table existe, oui, c'est mon intelligence qui le dit, mais ce n'est pas ma sensation. Je touche la couleur, je ne sais pas si je touche. Je touche la surface, c'est poli, c'est très poli cette table. Vous voyez, quand je suis au milieu de gens qui ne sont pas polis, j'aime toucher la table parce qu'elle est polie. C'est reposant, ça c'est très reposant. Elle est correcte cette table. Ouais. Je touche ça, mais c'est mon intelligence qui dit ceci est. C'est l'intelligence seule touche l'air. L'intelligence qui découvre à travers les qualités que je vois, la quantité que d'une certaine manière je touche, je pèse, je dis ça pèse lourd. Quand vous dites ça pèse lourd, vous touchez la quantité quand même. Oh, c'est une poids-plume, c'est la quantité. Oh, c'est long, à perte de vue, c'est la quantité. Et au-delà de la quantité, vous touchez. Bien comprendre ça, hein. Vous ne touchez pas l'être. C'est l'intelligence qui, au-delà des sensations et à travers les sensations, l'intelligence est présente au bout de mon doigt. Et il y a des doigts intelligents et il y a des doigts bêtes. Il y a des mains intelligentes et des mains bêtes. Vous avez déjà remarqué ça. Je dis pas pour les pieds, mais pour l'intelligence, pour la main. Il y a des mains intelligentes. Ça se voit tout de suite. Puis il y a des mains bêtes. Regardez les pattes qui sont comme des mains d'un singe. C'est pas intelligent du tout. Et puis la patte de l'ours, pff, là là, c'est pas intelligent. La main de l'homme, quand vous donnez la main à quelqu'un, vous sentez tout de suite son intelligence. C'est extraordinaire. Vous n'allez plus oser me donner la main. Tout de suite, on sent l'intelligence, c'est évident. Il y a quelque chose. Vous voyez, il y a un lien. Vous touchez l'être de l'autre. Et en touchant l'être de l'autre, vous touchez son intelligence et son cœur. Quand vous dites à quelqu'un qui souffre, et qui souffre profondément, et vous lui tirez la main dans le silence, parce que vous ne pouvez rien dire. Parce que vous savez que toutes les paroles sont inadéquates. À ce moment-là, seul le silence permet de toucher l'autre dans ce qu'il y a de plus personnel, dans sa souffrance. Parce que la souffrance intériorise toujours. La joie, toute voile dehors, tandis que la souffrance intériorise toujours. Quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie connaît ce que c'est que l'intériorité. Et Dieu permet la souffrance pour intérioriser. On verra ce que reste la place de la souffrance dans le point de vue de la personne, dans la structure de la personne. Donc, l'analyse philosophique implique la découverte de la substance. Nous l'avons vu ce matin, l'ousia, qui est la source. De toutes les déterminations. Toutes les déterminations ont une source cachée, la substance. La déesse qui demeure, selon Platon, c'est la substance. Donc le je suis s'enracine dans la substance. Quand vous dites je suis, c'est votre substance qui s'exprime. Grâce à vos sens, grâce à votre intelligence, grâce à l'amour que vous avez pour vous. Je suis. C'est votre substance qui s'exprime. Et je dis, c'est votre âme. Ah ! Je passe de la substance à l'âme. La substance, c'est la source de toutes les déterminations du point de vue de l'être, du point de vue de ce qui est. L'âme, c'est le principe radical de toutes les déterminations du vivant. Du vivant, de l'homme vivant. L'homme en tant que vivant. L'âme est découverte comme un principe, comme une cause du vivant. Là encore, il faut découvrir l'âme par induction. Mais l'induction, la découverte de l'âme est plus facile que celle de la substance. Parce que j'ai une certaine expérience de mon âme. L'intériorité. Et quand vous réfléchissez un peu, un petit moment de méditation, vous découvrez qu'il y a en vous quelque chose de profond qui ne s'extériorise pas tout de suite. Vous pouvez cacher vos pensées, vous pouvez cacher le secret de votre cœur. Là, vous touchez dans une expérience interne qui est une source en vous. La petite source dont je parlais ce matin, c'est l'âme. Et vous pouvez, par une induction, découvrir ce que c'est que l'âme. Or, en vous, votre vie et votre être sont identiques. Je suis, je vis. Je suis, je vis, c'est. Et quand vous mourrez, alors là, je ne sais pas ce que vous direz. Et si l'Évangile avait été un livre philosophique, on aurait interrogé Lazare sur ce qu'il a vécu quand il était dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il a vécu? Et comme l'Évangile n'est pas un livre philosophique, on ne dit rien. C'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé avoir un petit dialogue avec Lazare. Qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais, que ton corps était dans le tombeau, qu'on l'avait laissé là, et que ta sœur, Marthe, disait déjà, ça tombe avec. T'es pas très flatteur pour toi. Et ton âme, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Où est-ce que tu étais? On a une expérience d'une âme séparée. Alors vous n'avez pas d'expérience de l'âme séparée, mais dans certains songes. Dans certains songes, vous pouvez faire l'expérience de Lazare. Vous avez vu Lazare le soir, et vous avez vu le soir, la nuit. Mon âme, mon corps est dans le sépulcre, et mon âme circule. On peut avoir ces rêves-là. Il faut demander aux psychanalystes ce qu'ils en pensent. Mais l'âme existe. Et les principes de vie et la substance des principes de vie. Or, en moi, l'être et la vie sont identiques. Et donc, mon âme et ma substance. Mon âme et ma substance. Parce qu'il y a les principes d'être en moi. Principes de vie, principes d'être. Mon être, c'est mon âme. Mon être, c'est mon âme dans mon corps. Mon âme et mon corps ne font qu'une seule réalité. C'est moi. Vous voyez, je dis, mon âme et mon corps, une seule réalité. C'est moi. Et si je passe au niveau de l'être, je dis, je suis. Je suis donc à travers moi. Je ne la quitte pas. Elle est présente à toutes mes activités. Et toutes mes activités donnent le reflet de mon âme. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, premier moment du je suis. Et je dis bien, c'est le premier moment au plan métaphysique. Fondamentalement, la personne, c'est une substance individuelle. Donc, impliquant l'âme et le corps. Une substance individuelle. La personne, c'est ça. C'est cette substance en tant qu'existant. Donc, en tant qu'existant dans un corps singulier, concret. L'analyse philosophique, si on fait un peu de métaphysique, implique un autre aspect, la recherche de la cause finale. Quelle est la cause finale de ce qui est? Parce qu'au plan métaphysique, il n'y a pas de recherche de la cause matérielle et de la cause efficiente. Vous savez, quand on veut analyser une réalité, on interroge ce qu'est cette réalité. Et on a quatre grandes interrogations. Qu'est-ce? En quoi? D'où? En vue de quoi? Cherchez bien, il n'y a pas d'autre. C'est Aristote qui a découvert ça. Et depuis, on le répète. Je l'ai mis dans le coin. Hein? C'est très très important, ça. Qu'est-ce? En quoi? D'où? L'origine. En vue de quoi? Un, deux, trois, quatre. Puis cinquième, sur le modèle de quoi? Sur le modèle de qui ou de quoi? Sur le modèle de quoi? Quand vous voulez connaître quelque chose, vous devez l'interroger de cette manière. Or, je veux connaître ce qu'est l'être, ce qu'est mon être. Je suis. J'existe. Bon, qu'est-ce? On découvre la forme. La cause, comme diront les scolastiques, la cause formelle. J'aime pas beaucoup cette manière de dire, mais les classiques. J'aime mieux dire la cause selon la forme. C'est beaucoup plus juste. Pourquoi? Parce que la première découverte de la forme, c'est dans l'œuvre d'art. Dans toute œuvre d'art, vous découvrez la forme, c'est une statue. En quoi? En pierre. En bronze. Vous voyez, tout de suite, la forme et la matière. Dès que vous êtes au niveau de l'être, ce n'est plus la distinction matière et forme, puisque, de fait, on va tout de suite voir, que la cause matérielle n'existe pas au niveau de l'être. Ça, c'est difficile à bien comprendre. Hein. Alors, je ne vais pas trop insister. Il y en a deux dans l'histoire de la philosophie. Maintenant, un peu plus. Hein. Mais il y en avait deux qui ont dit qu'il y avait une cause propre, matérielle, de l'être. Averroès et Lénine. L'être par nature est matériel. Donc vous voyez, à partir de ce moment-là, il n'y a plus l'esprit. L'esprit, ça n'existe pas, c'est imaginatif, c'est un mythe. De temps en temps, vous avez des gens qui le nient. Vous savez ce qu'il faut répondre. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit l'esprit n'existe pas, il faut répondre à demi-même. Ah, c'est pas étonnant. Ceux qui n'ont pas l'esprit n'ont jamais découvert. Alors, à ce moment-là, c'est fini. Parce que l'esprit se découvre de l'intérieur. J'avais donné une fois cette réponse à des psychologues. J'avais une petite conférence de psychologue, vous voyez, une psychologue en face de moi qui souriait parce que je parlais l'esprit. Elle dit, évidemment, vous ne savez pas ce que c'est que l'esprit. Elle dit, non, l'esprit, ça n'existe pas. Alors j'ai répondu du tac au tac, c'est pas étonnant. Ceux qui n'en ont pas, ne peuvent pas savoir ce que c'est. Alors tout le monde a éclaté de rire. Alors la psychologue, à ce moment-là, a baissé le nez, c'est tout. C'est fini. Vous voyez, il y a des choses qui sont tellement grosses que quand il faut quand même un tout petit peu montrer que c'est gros. Quelqu'un qui parle quand même, il a l'esprit qui parle. Un enfant qui sourit, premier signe de l'esprit, il sourit. C'est vrai, un singe ne sourit pas. Et la guenon n'a jamais attendu le sourire de son petit singe. Jamais. Tandis que la mère attend le sourire de son enfant. Et ça, c'est merveilleux. Le signe de l'intelligence, le signe de la présence d'un autre. Le sourire, c'est comme ça, quoi. Qu'on montre, il ne parle pas encore, mais il sourit. La dernière chose qu'on fera avant de mourir, c'est de sourire, au-delà de la souffrance, à quelqu'un qui est présent et qu'on aime. On ne pourra plus parler, on touchera. Mais on montrera qu'on est là présent. C'est très important de regarder le point de départ et le terme. L'alpha et l'oméga. Alors, la cause matérielle, non. L'être, en quoi l'être? Chercher. En quoi l'être? Gratter. Il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse en quoi. L'être n'est pas matière. Ça ne veut pas dire que la matière n'est pas de l'être. Mais l'être considéré en lui-même n'est pas matière. Ça, ça demande à penser. C'est très intéressant de creuser ça. D'où l'origine non plus. C'est une origine du devenir, mais pas de l'être. L'être comme tel, il est. Alors, les deux causalités, en vue de quoi ? C'est la fin. La finalité. Et la cause formelle. C'est pour ça que la philosophie première est extrêmement simple. Il n'y a que deux causalités. La substance et l'acte. Donc, quand on se pose la question « En vue de quoi l'être ?» Posez-vous la question « En vue de quoi l'être ?» Essayez de comprendre ce que ça veut dire. En vue de quoi l'être ? L'être, il est pour lui. Donc, il possède en lui-même sa propre finalité. Il est. Parce que si la finalité était en dehors de l'être, vous voyez tout de suite, la fin serait du non-être. Serait le vide. Le vide, il n'existe pas. Le vide ne finalise pas. Le vide ne finalise que ceux qui sont malades. C'est vrai, ça, c'est terrible quand on est, vous voyez, séduit par le vide. Le vide peut exercer une séduction. Il ne finalise pas. Il faut toujours bien distinguer l'attraction du bien. Et la déduction du beau. Le beau séduit, mais ne finalise pas. C'est le bien qui finalise. Et le bien suscite en moi un amour. Alors quand je cherche en vue de quoi l'être, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que l'être a en lui-même sa propre fin. C'est qu'il est parfait. Et l'être est parfait quand il est en acte. C'est l'être qui porte en lui-même sa propre finalité. Et quand je fais la métaphysique de l'acte, je vois tout de suite que l'acte a cinq modes, c'est-à-dire cinq manières d'être. Alors je vous les donne tout de suite, hein, parce qu'on ne peut pas faire toute la métaphysique. Mais c'est pour vous montrer comment comprendre ce qu'est la personne présuppose toute la métaphysique. Cinq modalités de l'acte. L'exister. Le bien. Le vrai. L'opération vitale. Le mouvement. Croyez bien que je ne dis pas ça à la légère. C'est très curieux, hein, c'est très très intéressant ça. Il y a cinq grandes modalités de l'acte. L'exister, je suis. Alors vous voyez, cette modalité de l'acte fondamentale, elle regarde la substance. La substance subsiste. Donc elle demande d'exister. Quel est l'acte premier qui est en moi ? J'existe. Je suis. Donc en disant « je suis », j'exprime que ma substance existe dans sa singularité. Et en disant « j'existe », je montre que à la fois je suis distinct des autres et que j'ai en moi-même une autonomie fondamentale. Mon être, personne ne peut le prendre. On peut me tuer, on ne prend pas mon être. On prend mon avoir. pas mon être. Mon être, personne ne peut le prendre. Et je découvrirai, quand je regarderai le problème de la création, que mon être est un don gratuit de Dieu. C'est pas un avoir, c'est un don gratuit de Dieu. J'existe. C'est extraordinaire, j'existe. Vous voyez, c'est ce que Raïta Maritain avait eu un jour, cette espèce d'intuition, est-ce qu'elle a dit l'intuition de l'être, ce qui n'est pas juste. Mais ça veut rien, je comprends très bien, poétiquement, elle peut dire l'intuition de l'être. Raïta, tout d'un coup, regardant un champ, j'ai bien connu Raïta, hein, ainsi que Jacques. Alors, c'était pour ça, Raïta était poète, c'était mystique. Alors, Raïta regarde un champ, puis elle réfléchit, et puis j'existe. Comment se fait-il ? Le champ existe, et j'existe. Vous voyez, le communisme fondamental. Le champ existe, j'existe. Alors, ça l'a foudroyé. Elle a dit, déjà, voilà l'intuition de l'être. En réalité, ce n'est pas l'intuition de l'être. C'est comprendre le jugement d'existence dans toute sa force. Ceci existe. Ceci, c'est le chat. Ceci, c'est moi. Ceci, c'est l'hippopotame. Je crois que son intuition aurait été encore beaucoup plus forte si à la place du chat, elle avait vu l'hippopotame. Quand vous voyez un hippopotame, et vous dites, ah, un hippopotame en liberté, hein, parce que quand il est en cage, il existe comme un prisonnier, donc il est complètement aliéné. Alors s'il est très aliéné, sa personnalité en prend un coup. N'est-ce pas ? Tandis que quand il est en liberté, alors là, il est un hippopotame. C'est plus généris. C'est impressionnant. C'est impressionnant un hippopotame. Tout aussi fort qu'un éléphant. Un hippopotame. Il existe. Il existe et j'existe. Et mon existence n'est pas celle de l'hippopotame. Elle n'est pas celle du chat. C'est mon exister. Et pourtant, il existe aussi. Vous voyez, l'acte d'être, l'acte d'exister. Et j'ai quelque chose d'unique dans mon exister. Ce que j'ai dit ce matin. Une originalité unique, substantielle, personnelle. Je suis. Vous avez ensuite comme acte, le bien. Ah ! Le bien suscite en moi un amour. C'est vrai. Alors évidemment, on peut parler du bien à tous les niveaux. Ici, je parle du bien en tant qu'il est le bien le plus spirituel qui soit. Donc le bien qui, d'une certaine manière, n'a pas de limite. Quel est le bien le plus spirituel que vous connaissez ? Directement. C'est la personne humaine. L'ami. L'ami est mon bien. L'ami est mon bien. C'est l'ami. Or, ce bien-là a suscité en moi un amour. Et cet amour, s'il est spirituel, il est volontaire. J'aime et je veux aimer. Mais ça, Descartes n'aurait pas su dire ça. Parce que pour Descartes, la volonté n'est qu'une puissance d'efficacité. Et l'amour n'est qu'au niveau passionnel. Ça explique Descartes quelque chose. Descartes, en faisant ça, c'est terrible. Alors que pour saint Thomas, pour Aristote, la volonté est source d'amour. D'un amour spirituel qui porte sur un bien spirituel, qui porte sur un bien absolu. Le bien. Alors vous voyez, c'est une chose très importante. Si l'être est le bien, quand je dis je suis, ma propre personne, dans le je suis, est impliquée ma capacité de susciter un amour, puisque je suis bon. Métaphysiquement, je suis bon. Tout le monde ne découvrira pas ma bonté. Donc j'accepte qu'une quantité d'êtres soit complètement indifférent. Mais il y aura certains êtres qui ne seront pas indifférents à ma bonté. Et c'est suffisant. Un seul suffit. Je suis bon. Quand je dis je suis, je veux dire qu'il y a en moi une bonté capable d'éveiller l'amour dans une autre personne humaine. Et je peux dire en même temps que quand je dis je suis, il y a aussi en moi un amour. Donc la personne humaine, c'est pas seulement exister. La personne humaine n'est vraiment personne humaine que quand elle a atteint sa fin, ce pourquoi elle est faite. Et l'homme est premièrement fait pour aimer. C'est dans l'amour d'amitié que je découvre ma finalité. Un amour d'amitié qui est véritable. Un amour d'amitié qui est spirituel. Il éveille en moi, dans ma volonté, une capacité d'aimer. Ce bien, cet ami. Cet homme qui m'attire. Cette femme qui m'attire. Elle suscite en moi un amour. Et entre nous, un lien mystérieux qu'on appelle l'amour d'amitié. Qui implique une réciprocité. Je suis à la fois celui qui aime et je suis celui qui est aimé. Donc je suis en même temps le bien et en même temps je suis tendu vers l'autre. Et ceci est impliqué dans le je suis. Quand je dis je suis, en toute vérité, je comprends qu'il y a en moi quelque chose de spirituel. Ma volonté, ma capacité d'aimer, et d'aimer spirituellement une personne. Je peux aimer autre chose, le chocolat et le vin. Ça, c'est l'amour passionnel. Ah, je sais très bien qu'en moi, il y a un amour passionnel. Et ça fait partie de ma personne, les passions. Mais je ne m'arrête pas là. C'est pas ça qui caractérise ce que je suis. Ce que je suis est caractérisé par ma volonté spirituelle qui se porte sur un bien spirituel. Je sais qu'en moi, il y a aussi une intelligence capable de chercher la vérité. Troisième modalité de l'acte, le vrai. Donc dans le je suis, est impliquée en moi cette capacité de rechercher la vérité. Et aussi le fait que je suis, dans mon être, quelque chose de vrai. On dira vrai. Ontologiquement et vérité formelle. Ça, c'est la scolastique qui dit ça. C'est juste, on peut le dire. Il y a deux aspects, vous voyez. Exactement comme dans le bien et l'amour. Mais dans le vrai, il n'y a pas de mot. C'est très curieux. Pourquoi y a-t-il qu'un seul mot dans le vrai et deux mots dans l'amour? Dans le bien et l'amour, vous voyez. Posez-vous cette petite question. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est cette petite question annexe qui accroche notre curiosité. C'est pour ça que je vous les donne. On dit le bien et l'amour. Alors on dira le bien est objectif et l'amour est subjectif. C'est évident. c'est moi qui aime. C'est toute ma subjectivité. C'est mon amour. Et quand on dit mon amour, on exprime bien sa subjectivité. C'est mon amour, tu comprendras pas. Tandis que le bien est objectif. Quand il s'agit du vrai, le vrai est ontologique. Quand je dis ontologique, c'est-à-dire le vrai est dans la réalité existante. Toute réalité existante, comme réalité existante, est vraie. Et puis, le vrai dans l'intelligence. Alors on dira la vérité. En prenant la forme abstraite, on dira la vérité formelle, le vrai formel, ou la vérité formelle. C'est dans l'intelligence. Ah, vous voyez, il y a le même mot. Vrai et vérité. Il n'y a qu'un seul mot. Au niveau du bien. Au niveau du vrai, il y a deux mots. Donc vrai, au niveau du bien, il y a deux mots. Et au niveau du vrai, un seul. Ça, c'est très curieux. Vous voyez, si le langage est digne de quelque chose, je dois dire, il y a là quelque chose d'intéressant. Comprenez pourquoi, j'espère, hein, tout de suite. C'est que l'amour est toujours dans mon intelligence, au niveau de l'intentionnalité. Le bien est réel. Je n'aime pas un bien intentionnel. Mon grand-père racontait toujours qu'il avait un de ses amis, quand il était jeune, qu'il avait toujours dit,